Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Mathieu, bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Ça va, ça va.
Ce soir, nous regrettons quelque chose vraiment d'important, c'était la présence d'une invitée de marque, mais qui, au dernier moment, n'a pas pu venir, n'a pas voulu venir, on ne saura jamais, enfin, ça la regarde. Mais nous saluons quand même sa non-présence hein, dans cette émission qui aurait pu parler d'un thème qui était intéressant sur le monde de la défense, mais... Malheureusement, tout ceci est déjà du passé. Et parlons de tout de suite. Quel est le thème de l'émission ce soir ? Un morceau très célèbre que vous connaissez toutes et tous.
Donc on va parler de jazz ce soir.
Ah, ça aurait pu être du jazz, c'est Scott Joplin. Ce morceau date de 1902, il s'appelle The Entertainment. Et ce morceau a été repris dans le film L'Arnaque.
L'Arnaque avec Paul Newman.
Paul Newman, tout à fait. Très très grand film.
On va donc parler d'arnaqueurs.
Et on va donc parler d'arnaqueurs, mais pas n'importe quel arnaqueur. Les champions du monde. Oh, les champions de France, peut-être.
Les champions de France, on va dire.
C'est déjà pas mal. Champions de France, champions du monde, comme Chirac. Ouais, ouais. Comme Chirac, il nous a quittés il y a quelques temps. On va voir qu'ici, on est quand même à un degré d'arnaque qui est assez extraordinaire. C'est le monde de la politique, les affaires et l'éthique.
C'est ça.
Alors, si on lance donc ce sujet, c'est parce que nous avons des choses à dire depuis maintenant les années 30. Mmh. Et on va commencer le sujet avec une affaire qui a vraiment, pour moi, marqué le XXe siècle, qui a marqué la vie politique, qui a marqué aussi une période qui était extrêmement troublée en France. C'est la période des années 30, mmh, avec l'affaire... Stavisky.
On aurait pu remonter bien plus loin, en fait, hein, puisque des affaires en politique, il y en a depuis qu'il y a de la politique. Mais bon, on s'est dit qu'on allait rester sur les dernières décennies. On commence avec une affaire emblématique, comme tu le dis, l'affaire Stavisky. Et puis après, on remontera petit à petit le fil des décennies pour arriver à la période actuelle. Et puis on essaiera d'en tirer quelques conclusions, hein, d'accord, de tout ce défilé d'affaires diverses et variées.
Et on voit que, en fait, vous avez quand même l'importance des journaux indépendants. Alors, on aurait pu parler de Panama, mais on n'a pas le temps. Et en plus, ça va prendre un recul un peu trop important. Donc, commençons dans les années 30. Alors, je remets un peu ça dans le contexte de l'époque. Nous sommes dans les années 30. La France entre à peine dans la crise de 1929.
Ouais.
C'est-à-dire que la France va y rentrer plus tardivement, d'une façon peut-être moins agressive que dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, surtout. Mmh. Mais ça va durer longtemps.
Oui.
Et va arriver sur cette période un personnage, un escroc, mmh, clairement un escroc, qui est escroc depuis toujours, mmh, qui s'appelle Stavisky.
D'accord.
Et qui a eu plusieurs prénoms. On va retenir ici simplement Alexandre ou Sacha Stavisky.
D'accord.
Alors, famille originaire d'Ukraine. Mmh. Juif, alors pourquoi je dis juif, évidemment parce que ça va prendre tout un sens dans cette période des années 30,
oui,
où je rappelle, oui, que dans les années 30 un certain Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933 en
peu
Allemagne
après, oui. Mmh.
Donc vous avez cette affaire qui va être montée en épingle notamment par la presse, mais aussi qui va mettre en avant toute une partie de la population qui sera clairement, on va voir, antisémite,
ouais,
dans un premier temps, et surtout anti-parlementaire.
Ouais, c'est ça. Il y a un fond général de rejet de la politique telle qu'elle se fait à l'époque, donc du parlementarisme. Et là, c'est comme une espèce d'explosion dans le rejet qui se concentre autour de la personne de Stavisky et donc de son affaire.
Alors reprenons globalement et rapidement, que fait Stavisky ? Alors Stavisky, donc, je vous dis, c'est un escroc notoire depuis les années 20. Hein. Il a évidemment un réseau très important dans le milieu parlementaire, parce qu'il a besoin notamment, ça se passe dans le sud-ouest de la France, au départ à Orléans, après ça descend sur Bayonne. Le député de Bayonne le soutient pour monter des affaires bancaires, mmh, qui permettaient, grâce à des dons de capitaux, de renflouer d'autres personnes jusqu'au moment où il n'y a plus d'argent. Alors comment ça s'appelle ça,
Patrick ? Ça s'appelle la chaîne de Ponzi, P-O-N-Z-I.
Peux-tu nous rapidement nous expliquer en quoi ça consiste ?
C'est un principe qui plus récemment a été repris par un vrai champion, lui, Bernard Madoff aux États-Unis. D'accord. Qui consiste à faire croire à des gogos fortunés de préférence qu'on va prendre leur argent pour le placer et leur offrir des rentabilités extraordinaires via des placements très judicieux, très fructueux. Et en fait, on ne place pas du tout leur argent, on se contente de l'encaisser, de le consommer. Quand le gogo en question dit « Bon, il en est où mon placement ? J'ai besoin de récupérer une partie de ma mise parce que je dois faire ceci, cela. » Eh bien, on va chercher un autre gogo pour lui prendre son argent et on rembourse le premier gogo avec l'argent du nouveau gogo.
Jusqu'au moment
où ça marche plus rien. Il y a un moment où ça marche plus. C'est dénoncé, voilà, tôt ou tard.
Donc c'est vraiment le Madoff des années 30. Là.
Ah, exactement, ouais.
Donc ce Madoff des années 30, qu'est-ce qui arrive en 9 janvier 1934 ? On le retrouve mort à Chamonix.
Ouais.
Alors pourquoi j'ai retenu le 9 janvier 1934 ? Je te l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est la naissance de mon père.
Mm-hmm.
Alors, évidemment, c'est une coïncidence.
Procédé pure. Mémotechnique. Hein.
Oui, c'est un procédé que j'avais notamment quand j'étais étudiant et lycéen, de rapprocher à chaque fois des dates personnelles et des dates officielles, si je puis dire. Les conséquences de son suicide, les conséquences sont dramatiques à la fois pour, la période et surtout pour l'avenir du parlementarisme.
Oui.
C'est l'origine de la crise de février 1934. Mmh. Vous avez une telle montée de l'anti-parlementarisme avec la montée de l'extrême droite dans toute l'Europe.
Oui.
Déjà en Allemagne, en Italie, en Europe de l'Est, en Europe centrale, mais aussi en France.
Oui.
Et vous avez donc cette manifestation de février 1934 qui a deux doigts, du 6 février, d'aboutir à un renversement de régime.
C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer que cette affaire Stavisky va donner cette impression aux Français que le monde politique est profondément corrompu.
Profondément, et
d'accord,
surtout
et qu'ils sont tous main dans la main, corrompus, tous francs-maçons en plus.
Francs-maçons hein,
et juifs en plus. Et voilà, d'où la les manifestations hyper importantes en volume, en taille.
Et en intensité.
De 1934.
J'ai signalé, vous avez 15 morts.
Ouais.
Le 6 février 1934, vous avez 15 morts, des centaines de blessés, et on est à deux doigts, parce qu'on est obligé de protéger le palais Bourbon, l'Assemblée nationale.
Oui, ils sont à deux doigts d'aller prendre le pouvoir.
Exactement.
Oui. On est passé pas très loin d'une prise de pouvoir par un pouvoir d'extrême droite.
Ce fait historique, on le retrouve dans un film qui malheureusement n'est pas très célèbre, qui s'appelle Forces occultes, qui est un film anti-maçon qui date des années 40, des années de Vichy.
Oui, tout à fait. Film complotiste.
Un film complètement complotiste, oui, mais qui à l'époque n'avait pas eu un grand succès. On préférait les films antisémites, pour les raisons que l'on sait malheureusement. Alors, ça représente pour moi cette affaire, la première véritable affaire politico-retentissante, judiciaire retentissante, et qui est mise en avant par Le Canard enchaîné. Il faut quand même dire que la presse indépendante, qui existait donc depuis la Première Guerre mondiale, la presse indépendante a un rôle clé là-dedans, dans le déclenchement de ces affaires.
Totalement.
Alors, par contre, on a une période un peu de blackout entre, évidemment, le conflit mondial et l'après-guerre, où là, vous avez une période où, je dirais pas qu'il y a énormément de censure, mais il n'y avait pas les moyens de maintenant.
Oui.
Il y avait de la censure, évidemment.
Aussi.
Évidemment. Et il y a aussi cette idée que la préoccupation première des Français, c'était la reconstruction.
Oui,
et c'était le fait de pouvoir retrouver un logement, etc.
Ouais.
Pouvoir se réapproprier des besoins primaires. Et c'est à partir des années 60 et surtout 70 que les Français vont à nouveau retrouver des affaires.
Oui, on va redécouvrir que les affaires sont toujours là.
Et notamment avec la guerre d'Algérie. Alors pourquoi la guerre d'Algérie ? Nous sommes en 1900, rapidement, 1959, le général de Gaulle, je rappelle, donc, a été appelé au pouvoir en 58. Il met en place sa constitution et il prépare en secret, je pense en secret, l'indépendance de l'Algérie. Et il prépare l'autodétermination. Et évidemment, il va se heurter à ceux qui l'ont rappelé, notamment un certain Salan. Il va se heurter à tous ceux qui veulent garder l'Algérie française.
Voilà.
Et il sait très bien qu'il faut créer un service d'ordre, mais un service d'ordre, on va dire, non officiel.
Ouais.
Et ce service d'ordre va s'appeler le SAC.
Service d'action
civique, en 1960.
Qui est censé aussi être né pour s'opposer à l'OAS.
À l'origine, c'est ça.
Ouais.
Sauf que on va s'apercevoir, et ça, on verra dans l'affaire suivante, concernant notamment l'affaire des... la disparition à côté de Marseille, Je n'ai plus le nom en tête, tout ceci va me revenir. Mais nous allons voir donc que l'objectif du SAC était une espèce de police militaire parallèle, quelquefois même mafieuse, et qui avait pour objectif de maintenir le gaullisme et éloigner le plus possible le communisme et le socialisme. Donc ils vont surtout lutter contre ça.
Ça sent les milices parallèles, ça sent bien les trucs d'extrême droite des gouvernements sud-américains d'extrême droite.
Pour moi, c'est la grande zone d'ombre du gaullisme.
Ça sent pas bon, quoi.
Le SAC.
Et avec des liens mafieux très très forts aussi.
Très très forts, notamment dans le sud de la France.
Des liens avec le banditisme.
Avec effectivement deux choses que j'ai retenues, plutôt sur la fin. Donc, ça commence en 1960, ça termine en 1981. Le SAC va notamment être plus ou moins mêlé à l'affaire Boulin. Alors, qui est Pierre Boulin ? Pierre Boulin est ministre du Travail à l'époque sous Giscard. Il est retrouvé mort dans les Yvelines. C'est ça. Il est retrouvé mort en 79 dans les Yvelines. Et on trouve cette mort extrêmement bizarre.
Bah oui, parce que je me souviens de Coluche qui faisait de l'humour, un humour très noir là-dessus, en disant on a le seul ministre qui a réussi à se noyer dans 50 cm d'eau.
C'est un peu
il
près
était
ça.
Censé être mort dans 50 cm d'eau de noyade. Donc il y avait un petit problème.
Alors au départ, l'enquête... pense à un suicide, on a pensé à plein de choses. Simplement, on a su bien après, parce que l'affaire est toujours en cours. Ça dure depuis quand même déjà plusieurs... Il y a eu énormément de livres écrits dessus, l'affaire a été jugée, rejugée, etc. On a appris avec le temps que Boulin allait bientôt mettre en avant effectivement des noms d'individus qui auraient eu des financements plus que douteux dans les Hauts-de-Seine pour financer leur campagne politique.
Donc il était sur le point de révéler des financements illicites de la part des partis politiques de son camp, c'était de la droite à l'époque.
Oui.
Et il aurait été suicidé, entre guillemets, pour cela.
Et le SAC, à mon avis, n'est pas innocent à l'affaire.
D'accord. Donc affaire gravissime qui n'a jamais été résolue, qui ne le sera jamais.
Et la pire, évidemment, c'est celle qu'on a connue en 1981, avec le massacre, décidément, je l'avais tout à l'heure et je n'ai plus à l'esprit.
Oui. Donc le SAC va massacrer toute une famille, 5 personnes. J'ai oublié le nom également.
Voilà ce que c'est. La tuerie d'Auriol. Voilà, la tuerie d'Auriol en 1981.
Massacre d'Auriol.
Vous avez la famille Massy qui est massacrée. Donc 5 personnes sont massacrées. On remonte l'affaire à un certain De Bizet.
Ouais.
Pierre De Bizet qui est à l'époque le numéro 1 du SAC à Paris.
Ouais.
Lui va être blanchi. Simplement, les 3 personnes qui vont être plus ou moins considérées comme responsables de ce massacre finiront en prison. Entre-temps, la peine de mort, parce que ça, le jugement a eu lieu dans les années 85-86, je crois.
Oui, la peine de mort avait été abolie.
Oui,
tout à fait.
D'accord. Et c'est aussi en même temps, information importante, Jacques Attali annonce la fin du SAC en 1981.
D'accord.
Devant les caméras de télévision.
Oui, de toute façon, c'était une telle verrue dans le principe démocratique que la gauche, en arrivant au pouvoir, ne pouvait que dire « on va abolir le SAC, on va abolir cette police paramilitaire, en quelque sorte, et mafieuse ». C'était évident. Ok, donc d'autres petites affaires éventuellement pour clôturer les années 80, alors, les 70, pardon.
On pourrait en parler plus, notamment des avions renifleurs. Hein, c'est deux Belges qui nous avaient vendus
à un prix
très, très, très cher. Mais alors, je dirais même que c'est carrément un prix exorbitant à près de 1 milliard de francs de l'époque.
Ouais.
Un avion capable de sentir le pétrole à distance.
Voilà, donc de repérer, juste en survolant d'un avion, les nappes de pétrole souterraines. Et là, ils ont réussi à convaincre les plus hautes instances françaises de la réalité de leur invention.
Oui, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment un lien direct entre, on va dire, la recherche de pétrole et l'État. Il y avait vraiment un lien absolument direct entre les deux.
Oui.
A priori, donc ça remonte aux années 74, 75, 76. Jacques Chirac était au courant. A priori, il n'y avait pas de doute.
Tout le monde était au courant. De toute façon, c'était tout ce qui a pu officiel. Ils avaient des financement officiel.
Mais très rapidement, a priori, alors ça, je l'avais noté, hein, il y a encore une fois des livres qui ont été écrits là-dessus, on aurait détecté rapidement que c'était une affaire un peu bidon.
Oui, quand même, il y a un moment où ça s'est aperçu.
Il y a 500 millions de francs de l'époque qui ont disparu dans la nature. On ne sait pas trop. Affaire à suivre, si je puis dire. Alors on peut terminer par...
Suite, c'est juste qu'ils ont escroqué tout le monde. Bravo.
Voilà, on peut terminer par les diamants de Bokassa et de Giscard. C'est plutôt, à mon avis, un coup monté, entre guillemets, pour un peu casser Giscard à la veille des élections, juste avant les élections de 81. On a très vite repéré les diamants qui ne valaient pas une valeur très importante, pas de 1 million de francs comme c'était dit à l'époque.
Ouais.
Et en fait, on a plus critiqué la relation qu'avaient Giscard et Bokassa, notamment, quand il allait se rendre en Centrafrique pour faire des parties de chasse.
Oui, mais quand même, ça dénotait aussi cette légèreté du personnel politique français qui reçoit, il n'est pas encore président, il est ministre déjà.
Tout à fait.
Il reçoit des diamants en cadeau de la part de son ami Bokassa. Et pour lui, c'est normal de garder ses diamants. Et là, déjà, il y a une question de rapport à la morale et à l'éthique qu'on va creuser dans le fil de l'émission. Donc
exactement.
Malgré tout, on garde ça en suspens. Pour lui, c'était normal. Ça lui a pété la gueule, tant pis pour lui. Ok.
Petite pause musicale ouais. Avec Marc Augeret et Les Mains Blanches.
Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer. À 20 ans, c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses. Ça veut jouer à l'ancienne noblesse. Incapable de gagner son pain. Voilà le type du vrai gondin. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres. Tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or, elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment, pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs.
Poker menteur.
Poker menteur.
Galade.
Vous écoutez Poker Menteur, aujourd'hui nous parlons du monde politique français et de son rapport à l'éthique. Alors nous venons d'écouter une chanson d'une brûlante modernité et on retrouve derrière la patte de ce cher Franck. D'où tu nous sors ce morceau de Marc Augeret ?
Alors Marc Augeret, en fait, la chanson a été donc ici chantée par ce compositeur et cet interprète dans les années 70, mais il reprend une chanson de Gaston Motéus qui remonte à l'entre-deux-guerres et est critiquée déjà à l'époque, on va dire les nantis par rapport au monde ouvrier.
Petit peuple.
Et surtout, évidemment, vous avez entendu la troisième partie qui s'adressait directement aux hommes politiques. Mm-hmm. Et il en décrit quand même des choses pas très nettes avec ces fameux 41 francs. À l'époque, 41 francs, c'est une somme importante. Mm-hmm. Hein, on est après, dans les fin des années 20, début des années 30. Et on peut s'apercevoir qu'on est toujours, dedans. Hein, ce système de promesses, de corruption, de morale qui est bafouée, d'éthique. Alors justement, Patrick, dans les années 80, qu'est-ce qui se passe dans les années 80 ?
On va continuer notre petit déroulé des décennies. On arrive aux années 80. Alors, aux années 80, Mitterrand est arrivé au pouvoir, 81, donc c'est la gauche. On espère un changement radical en termes de morale aussi, de mentalité et de morale. Et on va vite déchanter, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont sortir. Alors on peut en citer quelques-unes en vrac. Moi j'aimerais bien d'abord parler de l'affaire des écoutes de l'Élysée qui s'est déroulée entre 83 et 86. C'est tout simplement Mitterrand qui décide de faire écouter tout un tas de personnes, des journalistes, des actrices. Pourquoi ? Parce que il les soupçonne de ceci ou de cela. Par exemple, il va soupçonner un certain Jean Édernalier, une espèce de journaliste un peu crétin sur les bords, de vouloir révéler un secret que Mitterrand ne veut pas révéler et qui sera connu 15 ans après, c'est-à-dire le fait qu'en fait il a une fille issue non pas de son mariage mais de sa relation avec une autre personne, c'est Mazarine Pinjot, et qu'elle est entretenue dans le plus grand secret aux frais de l'État. Mais il va faire écouter beaucoup de monde, il va faire écouter l'actrice Carole Bouquet, le journaliste Edoui Plenel qui n'apprécie pas trop parce qu'il est un peu trop fureteur, l'avocat Jacques Vergès, le mari de Carole Bouquet, et tout ça va faire une affaire assez chaude, hein, qui sera jugée seulement en 2005. Hein. Autant vous dire que la justice est très rapide. Mitterrand, lui, a juré ses grands dieux qu'il n'avait jamais rien fait. Il a poussé des cris scandalisés quand certains journalistes ont osé aborder cette affaire-là. Voilà, cette affaire a été révélée par le Canard Enchaîné, mais avant par un journal d'extrême droite, National Hebdo. Ça, c'était une première affaire. Une autre affaire un peu plus chaude en termes financiers, l'affaire Carrefour du Développement, qui date de 86. Et là, on est en plein dans les divers gouvernements sous Mitterrand. Et on a un monsieur qui s'appelle Christian Nucci, qui est ministre délégué à la coopération et au développement. Et ce Christian Nucci, il décide de créer une association, l'association Carrefour du Développement, pour aider à la politique du développement, aider un journal qui travaille sur le développement, etc. Et très vite, en fait, cette association va être le lieu de malversations absolument faramineuses. Il va y avoir une comptabilité fictive qui va être mise en place, des fausses factures, et il va y avoir des détournements d'argent à hauteur d'1,4 million pour... Yves Chalier qui était son chef de cabinet à l'époque, hein, à Christian Nucci. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Des divers dons, divers prêts pour la femme, l'ex-femme, la maîtresse de Christian Nucci, 20 millions de francs. Il va aussi accessoirement financer les affiches de sa campagne électorale. Il va aussi régler des cotisations au Parti Socialiste. Il va faire des réceptions faramineuses pour des dignitaires africains. Il va financer tout un tas de choses, l'achat et la restauration d'un château en Sologne, 3,3 millions de francs. Bon, bref, affaire vraiment spectaculaire et qui sera comme d'habitude révélée par les journaux indépendants. Ça fait un total quand même de 27 millions de francs de détournement entre 84 et 86. Pour information, Christian Nucci a été condamné à 5 ans de prison en 90, placé en liquidation judiciaire. Non, c'est pas assez, Yves Chalier. Yves Chalier a été condamné à ça. Christian Nucci, lui, rembourse mensuellement 1500 euros par mois depuis 2000. En 2013, il devait encore 3 millions d'euros de remboursement. Voilà, donc l'affaire Carrefour du Développement. Une autre affaire moins connue, l'affaire Luchère. Qui concerne entre 82 et 86 rien moins que Charles Hernu, le ministre de la Défense. En fait, à cette époque-là, il y a une commission interministérielle qui autorise des exportations de matériel de guerre à l'Iran. Sauf qu'en fait, cette autorisation est basée sur un dossier qui a été truqué. Et donc, derrière cette affaire, il y a des 3 millions de francs de commission qui auraient été reversés au Parti Socialiste. Donc, c'est une des affaires qui va provoquer le vote de la première loi sur la transparence et sur le financement des partis. Mais je dirais, l'affaire sur laquelle je voudrais le plus m'arrêter dans les années 80, c'est l'affaire Urba. Urba, en fait, elle a commencé, cette affaire Urba, au début des années 70, puis elle a rebondi à la fin des années 80, entre 87 et 89. Ça, c'est assez emblématique parce qu'en fait, cette affaire, elle nous dit comment fonctionne le financement occulte à ces époques-là des partis politiques français. En l'occurrence, il s'agissait du Parti Socialiste Français. Eh bien, il s'agissait tout bêtement de rançonner, en quelque sorte, les entreprises qui essayaient d'obtenir des marchés publics avec des fausses factures, et donc ça permettait de générer de l'argent qui était reversé au Parti Socialiste, et ça permettait donc de financer le Parti Socialiste. Donc au début des années 70, en fait, il y a eu quelque part une époque où on a vu une première augmentation des dépenses de campagne électorale. Là, ça commençait à devenir très coûteux. Et à l'époque, le gouvernement, l'État, a refusé de financer les partis politiques. Et c'est à partir de là que le Parti Socialiste a décidé de mettre en place ce système de fausses factures. Il a créé Urba dans ce but-là, dans ce but de détourner de l'argent pour créer des systèmes de fausses factures. Donc cette affaire va être révélée par la presse et aussi par un inspecteur de police qui s'appelait Antoine Godineau. Il était inspecteur de police judiciaire à la section financière du SRPJ de Marseille, donc quelqu'un qui connaissait bien le sujet. Et il a carrément écrit un bouquin chez Albin Michel qui s'appelait « L'enquête impossible » où il détaillait tous les détails de l'affaire Urba, l'affaire des fausses factures de Marseille, qui était cette affaire Urba. Je peux vous dire qu'il a eu des soucis dans sa carrière, le monsieur. Mmh. Ah, il a eu des soucis, mmh. Et pas qu'un peu. Hein. Il a essayé de faire aboutir l'affaire, il a eu des obstacles dans tous les sens. Le parquet a refusé d'ouvrir une information judiciaire au départ. Ensuite, il a été muté. Ensuite, il a été dessaisi. Et quand il a écrit son bouquin, quand il a publié son bouquin, il a été carrément révoqué de la police en 91. Donc, autant vous dire que le monde politique sait se défendre. Pour autant, ça a quand même été révélé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas compliqué. L'affaire est révélée. On est entre 87 et 89. Eh bien, le 22 décembre 1989, l'Assemblée nationale, qui à l'époque était à majorité PS, en pleine nuit, met en place, à travers une loi, un projet d'amnistie. Et donc, amnistie l'affaire. Amnistie les responsables qui auraient pu être condamnés dans cette affaire Urba. Ça a fait un scandale pas possible.
Donc, c'est une forme de grâce parlementaire.
Ouais, tout à fait. Mm-hmm. Et le juge, à l'époque, qui avait été saisi de l'affaire, s'appelait Thierry Jean-Pierre. Il était assez connu à l'époque. Mm-hmm. Et il va déclarer... J'ouvre les guillemets. 1981 marquait pour moi l'arrivée d'une éthique, d'une certaine morale. C'est pour ça qu'on élit la gauche. Et quand on voit ce qu'elle est devenue 10 ans plus tard, c'est vrai que ça rend très, très amer. Alors, pas de chance pour eux. La justice va refuser le dessaisissement du juge Jean-Pierre, qui est dessaisi, et va rebalancer l'instruction à un autre juge, lui très connu également, Van Ruynbeck, qui va reprendre l'affaire. Ce qui fait que finalement, cette affaire va aller au-delà de ce qui est prévu. Et c'est un certain Henri Emmanuelli, qui à l'époque avait la malchance d'être trésorier du PS, qui va morfler pour tout le monde, puisqu'il va être condamné en 1997 à 18 mois de prison avec sursis pour trafic d'influence, complicité de trafic d'influence, 2 ans de privation de ses droits civiques. Voilà. Il y en a un autre qui sera relaxé. Donc, cette société Urba sera liquidée à la fin des années 90 parce que bon, c'est pas possible, ça marche plus là, ça se voit trop.
Oui, au bout d'un moment, ouais. Oui, ça c'est...
Voilà en quelque sorte un petit peu pour les années 80 ce qu'on pouvait citer. Pour les années 90, Franck, tu as quelques petites affaires à
proposer. Oui, les années 90, ça correspond... Alors, fin des années 80 et des années 90, ça correspond aux deux cohabitations. Et là, je vais plus parler de la cohabitation, évidemment, qui a marqué la fin du septennat Mitterrand. C'est la cohabitation avec un certain Édouard Balladur. Alors, même si le personnage a l'air très bonhomme, on va dire bien sous tous les angles, quand on fouille un peu, on regarde qu'il y a eu quelques affaires aussi assez, assez croustillantes. Revenons fin des années 80. Fin des années 80, au RPR. Alors déjà, donc, en 86-88, vous avez la première cohabitation avec... Jacques Chirac, et vous avez la montée en puissance de nouveaux cadres au sein du RPR, notamment Michel Noir, mmh. pour la région, et Alain Carignon.
Ouais, les jeunes loups.
Les jeunes loups, donc ça, on est fin des années 80, et on se dit que c'est la relève.
Tout à fait.
Alain Carignon, d'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on en parle encore maintenant, évidemment pas forcément pour les affaires, mais il n'empêche. Ce personnage, donc, qui est vraiment un jeune loup du RPR, qui est aussi une référence.
Ouais.
Il a été, quand même, il faut le préciser, il a été maire de Grenoble, député, député européen, ministre. Mmh.
Justement, très jeune, il était jeune.
Très, très jeune. Sous la première cohabitation, donc en 86, avec l'accident de Tchernobyl, il était ministre, et notamment de l'environnement. On imagine bien que c'était un peu compliqué déjà à l'époque pour dire que les nuages s'arrêtaient aux frontières, entre guillemets. Mais n'empêche, vous voyez, c'était vraiment un genou très prometteur. Et il a fauté, si je puis dire. En 1989, vous avez les élections municipales. Et à Grenoble, il va présenter un journal pour sa campagne politique, extrêmement a priori coûteux, qui va donc lui permettre de récupérer la mairie de Grenoble. On arrive en 93, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, donc Édouard Balladur est nommé par Mitterrand Premier ministre. Et on reparle de notre monsieur Carignan. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un phénomène, comme lors de la première cohabitation, il y a un phénomène de privatisation important. Et notamment, c'est la gestion des concessions des marchés publics. Ouais. Et notamment le service de l'eau. Ah ! C'est là que Carignan intervient. Carignan, donc, a dû faire face à des dépenses considérables pour ça, je rappelle, pour sa campagne de 1989.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il va faire avec cette privatisation des services publics, notamment avec la Lyonnaise des eaux ? Il va surfacturer. Il va surfacturer donc les eaux à Grenoble pour pouvoir rembourser sa dette liée à son journal très coûteux.
Il y a pas mal d'affaires qui auront quand même pour lien le financement des campagnes électorales
très souvent,
qui sont très coûteux.
Très souvent.
Totalement.
Parce qu'a priori, alors j'ai pas eu son journal entre les mains, le journal était vraiment extrêmement luxueux, entre guillemets, pour un journal de campagne.
Mmh.
Bon. Il n'empêche que donc le scandale éclate quand il est ministre, il est obligé de démissionner, on lui demande d'aller voir ailleurs. Alain Carignan va faire de la prison.
Oui, ils ne sont pas si nombreux à avoir fait de la tôle.
Et ce n'est pas avec sourcil, là. Il va faire de la prison.
Mmh, ferme.
Il va en ressortir, mais, et c'est là où j'interviens par rapport à la période actuelle, il veut reprendre la politique.
Oui, parce que sa période d'inéligibilité qu'il a dû se choper est terminée, je pense.
Il a purgé sa peine, voilà, si je puis dire, et il veut revenir. A priori, il va se présenter aux élections municipales de Grenoble au mois de mars 2020.
Ma foi, on verra comment il sera accueilli.
Voilà, on verra tout ça. Intéressant. Donc, affaire à suivre.
D'accord.
Donc ça, évidemment, c'est la première affaire sous la période Balladur. La deuxième grosse affaire, c'est l'affaire Karachi.
Ouais.
Ah, l'affaire Karachi, là, c'est encore une fois d'un autre calibre. Là, vous avez la remise en cause, du financement de la campagne présidentielle de M. Balladur en 1995.
Mmh.
Il y aurait eu, donc, avec cette affaire Karachi qui remonte, en fait, à 2002, il y a un attentat terrible à Karachi qui fait 14 morts, dont 11 ingénieurs français, jamais revendiqués.
Ouais.
Je ne sais pas d'où ça vient.
Ouais.
Et on suppose... L'affaire est toujours en cours.
Oui.
Elle perdure toujours. C'est comme l'affaire Boulin. Mm-hmm. On suppose qu'il y aurait eu effectivement un système de vengeance lié à des rétro-commissions qui auraient été effectuées pour le financement de la présidentielle de Balladur. Ces rétro-commissions qui passaient avec un certain Ziad Takieddine.
Ouais, le fameux.
Qui passait régulièrement, a priori, dans les médias. À l'époque, je ne suivais pas, dans les années 2000. Mm-hmm. Et qui expliquait que ces rétro-commissions permettaient directement au financement occulte
de la campagne
électorale
de
1995.
Mmh,
d'accord. Et on est toujours dedans.
Et il y a dans ce système totalement clandestin, il y a un moment où de l'argent promis n'a pas été versé à la partie extérieure et qu'elle s'est vengée en organisant l'attentat. Et la partie extérieure, on met des guillemets parce que c'est une hypothèse, il semblerait que ce soit le Pakistan.
Il y a des chances.
Mettons les pieds dans le plat.
Allez, on est fou, on le dit. Oui. Et effectivement, je pense qu'il y a des chances que ce soit le Pakistan.
Mmh. Ok, très bien. On va passer à la décennie suivante.
Alors, simplement, oui, dernier petit rappel, l'affaire Tibéri.
Oui,
c'était plutôt cocasse, entre
guillemets. Ouais.
Là, on avait trouvé environ 3000 faux électeurs dans le 5e arrondissement de Paris.
Le maire qui a succédé à Chirac, pour information,
c'est
à la mairie de Paris.
Donc,
qui faisait voter les morts.
À peu près ça.
Méthode Corse, il était Corse d'origine, donc tout va bien.
Et c'est pour ça que les guignols de l'info sont régalés.
Ah bah évidemment, tu parles. Ok, dans les années 2000, je vais passer rapidement. On pourrait citer plein d'affaires, des affaires plus ou moins graves, comme l'affaire Guérini, par exemple, une affaire qui est... Guérini, c'était quand même le président du conseil régional du Sud, là-bas, et qui était socialiste, et qui était lié complètement au milieu mafieux. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Il y a des affaires Big Malion, affaire Uramine, tout un tas d'affaires. Moi, je vais m'arrêter sur une des toutes premières, historiquement, affaires des années 2000, c'est l'affaire Clearstream, parce qu'à mon sens, elle apporte quelque chose de nouveau. Clearstream, ça a été révélé par Denis Robert, un des meilleurs journalistes d'investigation en France, à travers deux livres. Un premier livre qui s'appelait Révélation et le deuxième La Boîte Noire, où il explique que cette entreprise qui s'appelle Clearstream, qui est une entreprise donc de compensation interbancaire, un système très compliqué qui rentre dans les mécanismes des circuits financiers internationaux officiels, eh bien, elle avait une face non officielle, une face souterraine, qui consistait en fait à financer ou du moins faire passer de l'argent sale ou servir de tuyau pour de l'évasion fiscale. Alors Clearstream, c'est une entreprise très puissante qui va être qui en plus gère des comptes de milliers d'entreprises très puissantes, et ils vont mener une véritable guerre à Denis Robert. Ils vont lui intenter plus de 60 procès en 10 ans. À la fin de ces 10 ans, la Cour de cassation en France a reconnu en février 2011 que sa démarche de Denis Robert était totalement légitime, d'accord, et donc ça va pouvoir faire cesser les poursuites incessantes et le harcèlement incessant de Clearstream sur Denis Robert. Ses livres vont à nouveau être réédités. Donc, il a prouvé dans ses livres, hein, par A plus B, qu'effectivement, il y avait des clients de Clearstream qui étaient des très grosses entreprises mondiales et puis des très grosses banques, enfin des gens extrêmement puissants, mais aussi des particuliers, et qui faisaient circuler de l'argent, qui soit blanchissaient de l'argent sale, soit allaient utiliser ces réseaux pour de l'évasion fiscale. Donc, ça a été une des premières affaires où on voit derrière vraiment le système de la finance mondialisée. Et comment, par quel circuit la finance mondialisée recycle illégalement de l'argent sale ou va illégalement évacuer de l'argent pour le soustraire à l'impôt, en quelque sorte. On fait une petite pause, une deuxième pause musicale.
Deuxième pause musicale. Alors, nous avons Philippe Catherine dans un morceau qui s'appelle, Patrick ?
Liberté.
Menteur.
Poker menteur.
Calade.
Vous êtes bien sur Radio Calade 100.9 Poker menteur. Vous venez d'entendre Liberté de Philippe Catherine. Des paroles assez simples qui veulent en dire très long, hein, je pense.
En fait, elles expriment un petit peu le rapport du monde politique français à l'éthique et à la morale, puisque c'est le sujet de notre émission. Après, on est un peu vache quand même. Ils n'ont pas tous ce rapport-là. Faut espérer.
Heureusement. On va dire que c'est qu'une infime partie des hommes politiques, voilà. Et ceux qui ont des responsabilités importantes, du moins qui brassent beaucoup d'argent.
Ouais. Je suis passé un peu vite sur les années 2000. Je peux mentionner rapidement que l'affaire Clearstream a connu un rebondissement avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Clearstream 2, c'est-à-dire qu'en fait, un des fichiers qu'avait révélé Denis Robert, avec des noms de tout un tas de personnes et entreprises qui avaient des comptes planqués donc chez Clearstream, ce fichier a été trafiqué et ensuite a été balancé à la presse pour pouvoir incriminer en fait des hommes politiques, notamment Sarkozy. Mmh. Et ça a donné lieu à l'affaire Clearstream 2, qui est quelque chose d'assez lamentable, puisque ça un peu étouffé, en fait, l'aspect explosif de la vraie affaire Clearstream. Donc, je m'arrête là. Dans les années 2010, parce que figurez-vous que, devinez quoi, il y a encore quelques affaires dans les années 2010, on n'y croit pas.
Ah bon ?
Ouais, tout à fait. Alors, rapidement, j'en cite certaines sans m'apesantir, mais comme c'est récent, on s'en souvient un petit peu plus. Par exemple, si je dis l'affaire Woerth-Bettencourt. Woerth, c'est qui ? Éric Woerth est un homme politique de droite début des années 2010, et Liliane Bettencourt, la fameuse héritière Bettencourt de L'Oréal, richissime. Bon, ils avaient des relations assez intimes, ces deux-là, hein, d'accord. Et puis, en fait, un jour, le majordome de Liliane Bettencourt, qui enregistrait clandestinement, c'était un malin, il enregistrait comme ça les conversations. Il a tout lâché à Mediapart. Ça a été révélé. ça a fait un petit peu de bruit, quoi, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même quelques collusions un peu douteuses entre la femme d'Éric Woerth, hein, Florence Woerth, qui est, et puis Bettencourt. Et puis derrière, il y avait un peu d'argent qui circulait pour financer, oh, devinez quoi, des campagnes électorales, encore une fois.
Ouais.
Bon, voilà, l'affaire Woerth-Bettencourt. Une autre affaire, encore une fois, de financement illégal de campagne électorale, l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Eh oui, Sarkozy se faisait, semble-t-il, financer ses campagnes par Kadhafi à hauteur de 50 millions d'euros, mine de rien. C'est quand même pas mal. Sarkozy a été en garde à vue en mars 2018, 36 heures à cause de cette affaire. Il est mis en examen pour corruption passive, recel de fonds publics et financement illégal de campagne électorale. L'affaire est en cours. Une autre affaire qui est aussi dans nos mémoires, parce que là, elle est quand même assez symbolique, c'est l'affaire de M. Jérôme Cahuzac. 2012, Jérôme Cahuzac est ministre du budget. C'est lui le patron de tout le système des impôts. C'est lui qui est chargé de ramener les impôts, hein, dire aux Français, allez, soyez de bons Français, payez vos impôts, bon sang de bois. Et puis, pas de bol, on s'aperçoit, du moins l'infâme site Mediapart l'accuse d'avoir lui-même planqué de l'argent en Suisse sans avoir, pour échapper à l'impôt. Alors évidemment, tout le monde est scandalisé de l'accusation non fondée de Mediapart. Il y a des journalistes comme Jean-Michel Apathy qui vont voler au secours de Cahuzac en disant à Mediapart « Mais fournissez vos preuves, c'est honteux ce que vous faites !» Et puis, quelques jours après, c'est le 2 avril 2013, Jérôme Cahuzac reconnaît les faits devant les juges d'instruction. Il est mis en examen pour blanchiment d'argent provenant de fraude fiscale.
Il faut quand même rappeler qu'il a dit devant tous les parlementaires,
oui, avant,
enfin,
il a
devant les députés, effrontément, et ça a été enregistré par les caméras de télévision, je n'ai pas de compte
en Suisse. Effronté.
C'est assez extraordinaire. On ferait ça avec un enfant, on lui tirait les oreilles.
Bah, hein. Lui met la fessée, là. Il quitte sa
culotte. On n'ose plus la fessée. Hein. Attention,
c'est interdit, on s'en fout. C'est une exception, c'est pas possible. Donc, il est condamné à 2 ans de prison ferme. Peine aménageable, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Comme c'est aménageable, c'est aménagé. Il est donc transformé en avril 2019 en port de bracelet électronique dans sa résidence de Corse. Ça doit être l'enfer pour lui.
J'imagine. En fait, quand on regarde tout ça assez froidement, très, très, très peu d'hommes politiques font de la prison. Enfin, d'hommes politiques au
classé. Ouais, très peu. Ouais, tout à fait. On va quand même parler des champions de France, quand même. Le couple Balkany.
Les Balkany.
Nos préférés, les Balkany.
Ah, il est superbe, Balkany.
Alors, monsieur Balkany, il est député-maire de Levallois-Perret. Madame Balkany, c'est son adjointe. Ils vont quand même être pris la main dans le sac. D'abord, ils ont planqué de l'argent en Suisse, mais bon, il y a la prescription, donc on ne pouvait plus y toucher. Donc, bon, c'est pas grave. On va quand même leur tomber dessus pour soupçon de blanchiment de cette fraude fiscale par le biais d'achats de biens immobiliers luxueux. Ils ont fait aussi tout un tas de fraudes fiscales pour échapper à l'ISF. Ils n'avaient pas envie de payer l'ISF, je ne sais pas pourquoi. Donc, ils ont des soupçons de corruption également. Ils sont soupçonnés d'avoir acheté une villa du luxe à Marrakech à 5,25 millions d'euros, donnée complaisamment par des hommes d'affaires belges et saoudiens. Balkany a servi d'intermédiaire dans tout un tas de trucs douteux également. Bref, c'est Van Ruynbeek qui leur est tombé dessus. Pas de chance pour eux. Donc, résultat, peine de prison ferme, 4 ans de prison ferme pour Patrick Balkany et 3 ans pour Madame Isabelle. Voilà, 10 ans d'inéligibilité. Donc voilà, les quelques rares exemples de gens qui vont en prison. Eux, c'est quand même les champions.
Oui, hein. Je pense, oui. Est-ce que sais si Madame Balkany va se présenter à l'élection municipale?
Il faudra qu'elle attende d'avoir fini sa peine d'inéligibilité. Hein. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Elle ne risque pas. Elle est inéligible pour 10 ans.
Mais je sais qu'elle reste très populaire à l'Ouvelle.
Ah bah oui, mais il va falloir qu'elle attende quand même.
Il y a quasiment eu une marche en leur faveur récemment. Là, j'ai vu ça dans les gens. C'était assez drôle.
Tout à fait. On va s'arrêter là. On a fait donc un long
récapitulatif. On peut terminer peut-être un petit mot sur les dernières affaires, rapidement, de Rugy et Ferrand.
On va en parler
avec la moralité ici, la moralité publique.
Oui, on va essayer de tirer la morale un peu de tout ce qu'on a établi jusqu'à présent. Et de fait, on va sans doute quand même, pour le plaisir, hein, pour la route, se citer les affaires Fillon et de Rugy. Mais avant, un petit point en quelque sorte. Si on regarde toutes ces affaires, il y a beaucoup de bases qui est la question du financement des partis politiques, le financement des campagnes électorales, des financements illicites, occultes, bien sûr, mais il n'y a pas toujours, parfois, mais pas toujours, des questionnements d'enrichissement personnel.
C'est pas la majorité des cas, je pense.
Non, tout à fait. Il y a parfois des affaires d'ampleur internationale à travers des affaires comme Clearstream ou des liens douteux avec la France-Afrique, hein, le monde politico-financier africain. Alors on pourrait de tout ça tirer des conclusions un peu à l'emporte-pièce en disant le pouvoir corrompt, toute structure officielle a son envers du décor, sa face occulte, etc., etc. Mais ce qu'on voulait faire pour terminer, Franck, c'est parler d'un aspect précis que révèlent ces affaires. Et paradoxalement, pour parler de cet aspect précis, on va se centrer plutôt sur des affaires qui peuvent être perçues éventuellement comme plus banales, plus bénignes que celles qu'on a citées, moins graves. Mais des affaires qui vont être assez révélatrices de l'état moral, éthique, du personnel politique français dans son rapport au fonctionnement quotidien du système politique.
Tu penses au Omar de Derugy, par exemple ?
Ouais, tout à fait. À M. Fillon, à M. Derugy. Alors, M. Fillon, par exemple, rapidement. L'affaire qui lui éclate à la figure, c'est quand on découvre qu'il a déclaré sa femme, Pénélope Fillon, comme son assistante parlementaire et qu'en fait, c'est un emploi fictif. Et donc, il va perdre les élections politiques, les élections présidentielles de 2017 à cause de ça. Cette affaire est révélée donc par le canard enchaîné, hein, d'accord. Et il va s'obstiner, Fillon, et il va... À mon sens, c'est lui qui a détruit la droite. Hein. C'est pas Macron qui a gagné, c'est lui qui a détruit la droite en s'obstinant à rester candidat.
Il a achevé.
Ouais, mais s'il avait passé la main à quelqu'un, je pense que Macron n'aurait pas gagné la présidentielle.
A priori, Juppé n'a pas voulu reprendre le bébé.
Ouais, hein. C'est le problème, parce que Juppé ne voulait plus. Donc, il est mis en examen pour des tournement de fonds publics, etc., etc. Son affaire va amener une loi pour la confiance dans la vie politique, hein, qui va notamment interdire aux parlementaires d'employer des membres de leur famille directe. Et quelque part, il y a deux points qu'on peut tirer de cette affaire, c'est des points qui étaient considérés comme normaux par les hommes politiques français. C'est le fait d'employer sa famille directe dans des postes d'attaché parlementaire, qu'ils fassent le travail réellement ou pas, hein. Et puis le fait de se faire offrir ici ou là des bricoles, genre des costumes, bon, pas cher, hein, 2-3 000 euros le costume, par des amis. Et ils ne voyaient pas où est le problème.
Alors ça, justement, je vais rebondir là-dessus, Patrick. Ça me fait penser un peu à la société de privilèges de l'Ancien Régime.
Ouais, ouais.
Alors justement, on peut revenir et en parler rapidement là, de la monarchie, du régime dit de monarchie républicaine.
Bah, c'est à ça que ça nous a fait penser. Donc parle-nous un peu de la notion de monarchie républicaine.
Alors déjà, je dois dire une chose assez évidente, c'est que le principe monarchique est inscrit dans la Constitution de la Ve République. Je m'explique.
C'est bizarre, ça.
Je m'explique. Vous prenez l'article 16. Pouvoirs exceptionnels spéciaux accordés au président de la République en cas de crise grave.
Ouais.
Le général de Gaulle, en 1961, utilise cet article. Parce que je rappelle qu'en Algérie, on est à deux doigts de la guerre civile.
Ouais.
Donc, il fait venir... Ça, à l'époque, ça avait quand même marqué les Français, les chars devant l'Assemblée nationale. Donc, il utilise l'article 16 et il obtient tous les pouvoirs, un peu comme un monarque absolu.
Ouais.
Ce n'est qu'un aspect. Deuxième autre aspect, l'article 17. L'article 17, c'est le droit de grâce. Le droit de grâce, alors ce qui m'a choqué ou qui m'a le plus marqué, a été utilisé. Alors évidemment, à l'époque, c'était la période où la peine de mort existait encore. Elle a été utilisée par M. Georges Pompidou en 1971 pour gracier Paul Touvier. Alors, je rappelle rapidement qui était Paul Touvier.
Un mec charmant.
Numéro un de la milice à Lyon dans les années 43-44. Et il a été, en 1946, condamné à mort par contumace parce qu'il était absent.
Oui.
Et M. Pompidou l'a gracié. Il va finir ses jours en prison à Fresnes. Il va mourir dans la fin des années 81, je crois, pour crime contre l'humanité.
Ouais, oui, carrément.
Donc il avait été gracié. Un pouvoir que Louis XVI ou Louis XV ou Louis XIV aurait pu avoir.
On pourrait appeler ça un pouvoir régalien, quoi, en quelque
complètement
sorte.
Mais là, vraiment, il y a vraiment un côté monarchique à tout ça. Et enfin, le dernier qui nous concerne par rapport au sujet développé, c'est l'immunité présidentielle. Article 67-68 de la Constitution, qui définit clairement, les droits, donc l'article 67 surtout, qui définit clairement les droits et surtout la mise à l'écart de la justice par rapport au président tant qu'il est président. Et c'est le cas de Jacques Chirac. Jacques Chirac, en 2007, est accusé de détournement de fonds publics, notamment ça c'est le volet financier. Il y avait 21 emplois fictifs. 21. Fillon, il a été, entre guillemets, recasé pour un ou deux, trois emplois fictifs avec sa famille. Lui, c'est 21 emplois fictifs à la mairie de Paris dans les années 90. Et vous savez qui a fait le fusible ? C'est Alain Juppé.
Alain Juppé, tout à fait.
Alain Juppé. Donc vous voyez, sous ces trois aspects, il y a déjà une monarchie républicaine dans la Constitution, avec ces trois articles.
Et moi, j'aurais tendance à ajouter les lieux dans lesquels s'exerce le pouvoir, l'Élysée, etc., sous
bien
les
sûr.
Ordres de la République.
Bien
c'est,
sûr. Un,
c'est une expression qui veut dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'on est dans des lieux extrêmement luxueux, c'est des lieux monarchiques. C'est vrai que ces gens-là, quand ils exercent le pouvoir, ils sont dans des lieux de pouvoir monarchique. Donc, très vite,
totalement
la dérive dans leur tête, elle peut se faire.
Bien sûr.
On peut se sentir une forme d'hubris.
Vous imaginez quand vous êtes dans ce fauteuil de Napoléon Bonaparte.
Ouais.
Imaginez ça, quand vous êtes président de l'Assemblée, je ne dis pas de bêtises, oui, vous êtes dans ce fauteuil où était Napoléon Bonaparte. Alors vous imaginez inconsciemment, je pense, que vous vous sentez au-dessus des lois. Et
d'accord.
C'est ce que maintenant, je pense, les Français n'acceptent plus,
totalement.
D'autant plus qu'on leur demande de faire des efforts et de se réformer. Mm. Et c'est là-dessus où on peut terminer d'ailleurs notre réflexion. Pour moi, la conception monarchique du pouvoir, c'est le fait de dire qu'à partir du moment où on devient un élu important, entre guillemets, et puissant, de la République, on a tout à fait le droit de posséder des pouvoirs supérieurs à la masse, supérieurs aux citoyens. Je pense que c'est acquis dans leur tête. Que M. de Rugy propose du homard ou un vin de très haute qualité pour un repas d'affaires, mais un vrai repas d'affaires pour... pour, on va dire, avec des personnes dans un but purement politique et un but purement lié au travail, il n'y a pas de problème. Mais si on s'aperçoit qu'autour de la table, c'est que ses petits copains, c'est là où ça va plus.
C'est ça, en fait, la révélation de cet été, hein, par Mediapart, encore une fois, c'est que de Rugy, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, organisait des dîners privés.
C'est ça,
sur
le problème.
Les fonds publics,
c'est ça,
dans
le problème.
Sa résidence administrative de l'hôtel de Lassay, en utilisant le personnel de l'Assemblée nationale, le matériel et l'alimentation de les consommables de l'Assemblée nationale. Donc la fameuse photo avec le homard.
Exactement.
Et ça, ils ne comprenaient pas. Encore une fois, il y a vraiment une évolution de la société française vers le fait qu'on ne supporte plus cette idée-là. Donc, quelque part, je dirais, le monde politique français est en train de se prendre dans la figure... Le fait que non, c'est plus possible. Nous, les Français de base, on ne veut plus de ça. Et il a eu une phrase assez révélatrice de Rugy. Il a dit « En France, le modèle n'est pas la barre chocolatée de la ministre suédoise. »
Alors, explique-nous ça.
Alors, ça, il fait référence à une affaire qu'on appelle l'affaire Toblerone, la barre chocolatée Toblerone, merci la pub, qui a concerné, en fait, le monde politique suédois dans les années 90. Et plus précisément, en 94, le Parti social-démocrate suédois arrive au pouvoir, revient au pouvoir, et il y a une certaine Mona Sahlin qui devient vice-ministre d'État, équivalent de vice-premier ministre. Et donc, il se passe un truc, c'est-à-dire qu'en fait, durant les années 90-91, elle est ministre du Travail, elle a utilisé sa carte bancaire professionnelle, au titre de son activité professionnelle de ministre, pour des achats privés. Alors, elle a acheté quoi ? Des trucs divers, a loué une bagnole, dépensé, bref, en gros, pour 5000 euros. Parmi ça, il y avait deux barres chocolatées Toblerone, c'est ça qui a donné le nom à l'affaire. Mais c'est pas si scandaleux que ça, en fait, parce que il se passait qu'il y avait une sorte de flou dans les procédures, c'est-à-dire qu'il était dit quelque part dans la réglementation du ministère suédois qu'ils avaient le droit d'utiliser leur carte bancaire professionnelle pour des dépenses privées à condition qu'ils le remboursent dans un délai donné, quoi. Et c'était le délai donné qui n'était pas très clair, et c'était là-dessus en fait qu'elle était critiquable, c'est qu'elle attendait un petit peu trop pour rembourser. Mais c'est là qu'on voit la différence de mentalité, on est dans les années 90, et de sévérité du système suédois et de l'opinion publique suédoise, parce que en gros c'est juste un petit décalage dans le temps, elle les remboursait ses dépenses, mais ça n'a pas été pardonné, et 66% des Suédois après sondage disaient non, tu ne peux plus être ministre d'État.
Ah, c'est peut-être la rigueur protestante, ça.
Exactement.
Qu'est-ce que tu en
penses ? C'est la rigueur protestante face à la monarchie républicaine française. On est vraiment sur une différence de mentalité absolument abyssale. Et de la même manière, quand on regarde, encore une fois, les ors de la République, c'est-à-dire dans quels locaux ces gens-là officient, ils ne sont pas du tout dans des locaux aussi luxueux, extraordinaires que le pouvoir français. On est dans une forme de rigueur protestante, comme tu dis, qui est complètement différente. Donc, malgré tout... peut-être est-on dans les deux extrêmes, mais je pense que c'est de fait une vraie demande de la population française que le monde politique français aille vers ce modèle, vers plus de sobriété.
Surtout vraiment dans une période où on demande vraiment à la majorité des Français de faire des efforts, on a envie de dire, mais montrez-nous l'exemple,
voilà,
faites-vous-même des efforts.
Et ça, bon, par contre, ça contribue beaucoup à la progression de la pensée populiste, le rejet des politiques,
tout pourri,
etc. C'est quelque part une mutation qu'ils doivent impérativement accomplir, parce que sinon, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis, et ils sont menacés par les populismes.
Parce que n'oublions pas que le vote populiste, pour moi, est un vote de rejet de la classe classique et de ses excès.
Ouais. Alors, si tu veux, on peut faire en guise de conclusion. Une petite conclusion philosophique. Ouais, je ne suis pas philosophe, mais pour une fois, j'ai fait un effort.
Je t'en prie.
Donc, on va évoquer Max Weber, qui a écrit L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme au début du fin 19e, début 20e siècle, et qui a développé deux notions, la notion d'éthique de conviction et la notion d'éthique de responsabilité. Je m'explique. Il dit, Weber, il y a deux attitudes. Il y a une attitude qui correspond à l'éthique de conviction que l'on peut avoir, qui est l'idée que ce qui est le plus important, ce sont les principes. Et donc, l'éthique de conviction, c'est se comporter en refusant tout compromis pour être fidèle à ses principes, quelles que soient les conséquences de notre comportement. Un refus rigoureux de tout compromis, respecter de façon très stricte les principes. Ça, c'est l'éthique de conviction. Et puis, il y a une autre éthique, une autre conception de l'éthique, qui est l'éthique de responsabilité, qui consiste à dire, oui, mais il faut prendre en compte les résultats de nos actions. C'est-à-dire que si les actions que nous menons pour être fidèle à l'éthique de conviction mène à des résultats très catastrophiques, très négatifs, eh bien ce ne sera pas bon. Donc l'éthique de responsabilité consiste à dire non, nos actes doivent tenir compte de leurs conséquences prévisibles et peut-être donc être un peu plus souples vis-à-vis de nos convictions. Tu comprends ?
Bien sûr.
Quelque part, on pourrait dire que le monde politique français est à fond dans l'éthique de responsabilité et pas du tout dans l'éthique de conviction.
Absolument.
Alors derrière, on peut citer un autre philosophe plus ancien, celui-ci, c'est Machiavel. Hein. Machiavel, avec son fameux livre sur le prince, sur les enseignements qu'il apportait au prince, et qu'il disait, lorsque les lois sont impuissantes, eh bien, le prince ne doit pas hésiter à recourir à la force ou à la ruse, en quelque sorte. Donc là aussi, on est dans une forme d'éthique de responsabilité. Parce que la conscience morale dans son désir de pureté, l'éthique de conviction, est parfois impuissante, voire irresponsable, peut mener à des catastrophes.
Tout à fait. Oui.
Donc, face à ça, on pourrait dire, face à ces deux extrêmes, c'est-à-dire l'éthique de conviction d'un côté et puis Machiavel de l'autre, on pourrait dire qu'on peut conclure avec Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, il nous dit « Il faut étudier la société par les hommes et les hommes par la société. Ceux qui voudront traiter séparément la politique et la morale n'entendront jamais rien à aucune des deux. » Quelque part, il nous dit qu'il faut concilier les deux points de vue. L'exigence éthique, c'est à la fois avoir de vraies convictions, mais tenir compte des conséquences de nos actes, en quelque sorte.
Eh bien, après...
Je t'ai soufflé là. Hein,
oui, n'est-ce pas ?
La philosophie, c'est pas tous les jours. Hein.
Eh bien, ma foi, on termine sur ces quelques mots, Patrick. Mathieu, une bonne soirée.
Merci.
Patrick, une bonne soirée. Et au mois prochain.
À bientôt,
au revoir.
Poker menteur.
Avec
Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker menteur. L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.